Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous. L'éducation nationale, ou si vous préférez l'école ivoirienne, était le sujet principal de la 7e conférence de presse du Renouveau démocratique, parti d'opposition ivoirienne, tenue dans ses locaux le vendredi 15 mars 2024 à Cocody à Toban. Lamoussa Dinko, président du Renouveau démocratique, dénonce que l'école ivoirienne est malade. Il se justifie en affirmant que chaque année, ce sont 2 millions d'apprenants qui sont rejetés par nos systèmes éducatifs, à savoir qu'ils abandonnent l'école. Face à cette situation préoccupante, le président Lamoussa Dinko propose, entre autres, la suppression du CEPE, du BEPC et du BAC pour permettre à un grand nombre d'élèves d'accéder aux études supérieures et de relever ainsi le niveau de développement du pays. Autre sujet de notre entretien, l'opération de déguerpissement de certains quartiers à risque d'Abidjan. Le Renouveau démocratique demande l'arrêt de la dite opération et plaide pour la construction de logements sociaux. C'est pour parler de tous ces sujets que nous recevons dans la grande interview le président du Renouveau démocratique, l'économiste Lamoussa Dinko, qui est ce matin dans nos studios.
Radio de la Paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Monsieur le Président Lamoussa Dinko, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement ici même dans nos studios à Radio de la Paix. Vous veniez de faire une visite, une tournée, j'allais dire, à l'intérieur du pays. Pourquoi vous avez fait cette tournée à l'intérieur du pays et qu'est-ce que vous avez constaté lors de cette visite à l'intérieur du pays?
Merci. La visite à l'intérieur... Il faut vous dire que, en tant que parti politique, il faudrait bien que nous approchions la population ivoirienne, tant urbaine, c'est-à-dire Abidjan et autres, et l'intérieur du pays. Alors, nous avons sillonné des villes comme Mans, Pacoubli, Bangoulo, Kwibli. Nous sommes aussi allés à Daloa, Lakota. Il y a une délégation aussi à Giglo. Le constat, il est clair, il est net. La Côte d'Ivoire est très pauvre. Cette pauvreté, il faudrait que nous acceptons ça afin de pouvoir prendre des décisions pour sortir de là. Le constat à l'intérieur du pays, presque tout est fait à Abidjan. La Côte d'Ivoire ne fait qu'investir uniquement à Abidjan. La ville d'Abidjan est assainie. On investit lourdement dans la capitale et les villes de l'intérieur sont complètement délaissées. C'était quand même dépressif de voir des grandes villes comme Mans, Daloa, Lakota. C'était vraiment très triste. Il n'y a presque rien dans ces villes. Aucune usine. Il y a des villes où vous ne pouvez même pas avoir de l'emploi si vous êtes qualifié. Il n'y a que la préfecture et la sous-préfecture et les agriculteurs. Et la question qu'on se pose, comment vous développez un pays? Est-ce que vous décentralisez? Est-ce que vous mettez tout sur la capitale économique? Si vous avez une population qui est éparpillée, qui n'a pas accès à l'emploi, alors je suis désolé, vous allez les voir tous se diriger vers la capitale. C'est ce que nous avons. Il n'y a même pas d'électricité dans certains villages. Il n'y a même pas d'infirmerie dans des villages de 3-4 000 habitants. J'étais tellement déçu de savoir que ce sont 4 ans plus tard, nous avons encore des villages de 4-5 000 habitants, ni dispensaire, ni de l'eau courante, ni électricité. Et nous sommes au 21e siècle.
Mais pourtant, ce que nous voyons chaque fois, des mises en marche de l'électricité dans beaucoup de localités du pays.
Oui.
Comment on explique ce contraste? Parce qu'on le voit quand même.
Des progrès ont été faits. La question qui me dérange souvent, j'ai passé 42 ans aux États-Unis, je venais chaque année dans mon pays, et je me rends compte qu'on avance très, très, très lentement. C'est le problème ivoirien. On avance très lentement. Vous allez me dire qu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie à l'intérieur du pays, qui n'ont jamais vu l'électricité et qui sont morts. Alors, nous sommes au 21e siècle. Voilà, ce sont 4 ans que nous sommes indépendants. Alors, à quel rythme est-ce que vous voulez aller pour qu'on puisse y arriver? Sinon, il y a des progrès. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de progrès. Nous, on fait des progrès. Mais c'est très, très, très lent. Très lent.
On va revenir sur la problématique du rythme à impulser pour avoir un développement efficace, parce que vous le dites, la Côte d'Ivoire, c'est à 64 ans. Est-ce que aujourd'hui, si on devrait faire une comparaison, à 64 ans, le niveau du pays en termes d'accès à certaines infrastructures ou non. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon?
Nous avons l'habitude de faire ça. Moi, je refuse qu'on compare la Côte d'Ivoire au Burkina, au Mali, au Niger, qui sont des pays enclavés, qui n'ont pas de café cacao, et qu'on se sente à l'aise. J'ai tendance toujours à comparer mon pays, et l'Afrique en général, aux pays européens qui n'ont pas de ressources, qui sont développés. C'est là la question. Si nous continuons de croire que nous sommes bien, parce que le Mali à côté est mal, alors nous n'irons nulle part. Ma comparaison vient de là. Comment se fait-il que un continent entier de 54 pays, il n'y a aucun pays qui est développé? Nous avons des ressources. Nous avons 2,5 fois l'économie du monde, c'est-à-dire 2,250 trillions de dollars de valeur en mine. Nous avons des ressources humaines, mais le continent est pauvre. Chaque pays est pauvre. La question est qu'on se pose, qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Ce sont nos dirigeants.
Il y a aussi le problème des ressources humaines. Mais pour que ça ait une valeur marchande, il faut bien des personnes qualifiées, formées pour la transformer.
Nous avons formé beaucoup de cadres depuis l'indépendance. La transformation n'est pas le problème, c'est l'orientation économique, le modèle économique que nous avons choisi qui nous crée problème. Tant que nous resterons agricoles, tant que notre PIB de 23% sera dans l'agriculture, alors nous allons avoir des difficultés de nous développer. On ne développe pas un pays avec l'agriculture. Si vous allez partout dans le monde, vous allez vous rendre compte que 2 ou 3, 4, 5% des pays développés ont leur PIB dans l'agriculture. Nous en avons 23%. C'est élevé. Entre-temps, notre agriculture, c'est-à-dire café, cacao, EVA et anarcade, sont des produits spéculatifs. C'est-à-dire que nous ne contrôlons même pas les prix de nos produits à Londres, à Paris, et nous avons des difficultés chaque fois même à comprendre s'il y a une chute, notre économie chute. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on ne nous achète pas le café cacao comme nous le voulons, le gouvernement n'a plus de revenus. Tout va s'arrêter. On dépend d'un produit spéculatif. C'est pourquoi nous demandons au niveau du renouveau démocratique de réorienter le modèle économique. Ça n'a pas marché depuis Oufouette Boigny, Gbagbo, Bédié, Guéï et le président Ouattara. Ça ne marchera pas. Vous allez vous donner 64 encore avec le même modèle économique, vous allez avoir les mêmes résultats.
Quel modèle pourrait faire bouger les choses selon vous?
C'est développé sur le plan industriel. Quand la France a été détruite en 1945, l'Europe, ils ont reçu un prêt Marshall.
Le plan Marshall.
Et la France et les pays européens, la France en avait reçu d'abord plus, et l'Angleterre, ils ont fait une chose très importante, c'est-à-dire se repartir. C'est pas de faire des plantations de vignes ou de pommes de terre. Non, ils sont repartis et ils ont réindustrialisé leur pays. C'est ça la base.
Alors, ils ont réindustrialisé, ce qui veut dire que c'était déjà industrialisé.
C'était déjà des pays. Oh, oui, c'était industrialisé d'une manière.
Mais si nous avons le tissu industriel, nous avons un minimum.
Non, mais nous sommes agricoles, hein. Nous sommes purement agricoles. On est petites industries, moi j'appelle pas ça. Nous ne sommes pas industrialisés du tout, nous sommes pays agricoles.
Okay.
C'est pourquoi il faut absolument, nous ce que nous proposons, si Dieu nous fait la grâce d'être au pouvoir, nous allons nous industrialiser. Nous allons préserver nos acquis en café cacao, nous allons être le premier pays producteur de café cacao, il y a EVA, etc. Mais nous allons nous industrialiser. L'industrialisation va nous permettre de créer de l'emploi, va nous permettre de faire d'économies de devises, va nous permettre de réorienter tous nos programmes de gouvernement. Il y aura assez de revenus pour faire tout ce programme dont nous souffrons. Et c'est ça le mal de la Côte d'Ivoire. Nous dépendons de l'extérieur pour nos développements. Nous dépendons de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des institutions de Bretton Woods, je veux dire, et le Club de Paris, le Club de Londres, pour nous développer. C'est pas possible, on ne pourra pas le faire. Ils ne viendront pas construire la Côte d'Ivoire pour nous. La Banque mondiale ne viendra pas construire la Côte d'Ivoire pour nous, ni la France, ni aucun pays. Il appartient aux Ivoiriens d'avoir un programme d'industrialisation nous-mêmes et de pouvoir sortir de ce sous-développement.
Concernant, bien entendu, ce plan d'industrialisation que vous prenez, Monsieur le Président Lamoussa Dinko, nous avons la matière première.
Oui.
Nous avons la matière première parce que pour toute industrie, la base, c'est la matière première. Ensuite, est-ce que on a, vous dites on a suffisamment formé. Est-ce qu'on a les installations? Les usines.
Il faut
il faut le matériel, la technologie.
Mais il faut l'acquérir. La technologie se vend clé à main. Si vous avez besoin d'une industrie d'exploitation verticale, c'est-à-dire de la matière première au produit fini, vous pouvez l'acheter en France. Vous pouvez l'acheter en Chine. Vous pouvez l'acheter en Corée. Tous les pays développés seront prêts à vous vendre les technologies. Elles se vendent. Je vous donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui en train d'importer la réfrigération, le climatiseur et les cuisiniers, etc. Mais, diantre, quand nous avons un boom économique, ce que nous avons présentement, nous avons besoin de quoi? Climatiseurs, réfrigérateurs, ventilateurs, etc., etc. Nous n'en produisons pas. C'est-à-dire le boom immobilier en Côte d'Ivoire fait travailler d'autres personnes à l'étranger. Ce sont des technologies qui sont vieilles. Elles s'achètent clé à main. Nous ne sommes pas en train d'aller sur la Lune. Nous sommes en train de dire, pour des raisons de devise, il y a des technologies qui sont en vente partout dans le monde. Installons-les chez nous. Produisons ce que nous consommons. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous produisons le café cacao. Nous ne sommes pas grands mangeurs de chocolat. Nous consommons l'électricité, la voiture, etc. Nous ne les produisons pas. Il y a un problème. Il faut renverser cette tendance. Soit on consomme ce que nous produisons et nous produisons ce que nous consommons. Vous allez voir que nous allons pouvoir créer cet emploi que nous n'avons pas. Et un taux de chômage qui est à presque 44%, c'est inacceptable au XXIe siècle.
Alors, Monsieur le Président Lamoussa Dinko, dans votre développement tout à l'heure, parlant donc de la réindustrialisation de certains pays, notamment vous avez cité le cas de la France après la guerre de 45, où il y a eu un plan Marshall pour travailler sur la réindustrialisation de la France. Si nous, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, si nous voulons nous lancer dans cette voie, qui va nous financer? Où on trouve cet argent de financement?
C'est là c'est tout le problème, c'est la clé. J'ai eu à travailler en Guinée, avec le gouvernement guinéen, pour la mise en place d'une structure pour la transformation de leur bauxite en alumina, d'abord, comme ils n'ont pas d'énergie, alors transformer ça en aluminium. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, dans mon pays, et avec le gouvernement de Laurent Gbagbo et avec le gouvernement du Ouattara, sur la question de la santé. J'ai travaillé au Ghana, j'ai travaillé en Zambie, nous avons travaillé au Congo, en RDC, nous avons travaillé au Nigeria, en Afrique du Sud. Le constat que je fais partout où vous passez en Afrique, on vous dit on n'a pas de financement. Mais c'est un danger. Vous dites, vous ne pouvez pas vous développer. C'est ce que vous êtes en train de donner comme information au reste du monde. Alors vous allez chercher le financement ailleurs. Vous croyez que les Français viendront vous aider à vous développer? Vous croyez que la Banque mondiale viendra? Non, la Banque mondiale, le rôle de la Banque mondiale, entre guillemets, c'est d'aider les pays du tiers-monde à lutter contre la pauvreté. Ils font trois choses classiques depuis que moi je me rappelle, depuis que je suis jeune. Ils vous font des prêts, vous achetez, et vous faites des prêts, vous faites les infrastructures, la route, comme nous sommes en train de le faire présentement, des écoles et des quelques dispensaires. C'est une méthode classique qui n'a pas changé depuis 60 ans, depuis que je me rappelle avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Vous ne pouvez pas attendre de ce développement. Il vous aide pour lutter contre la pauvreté. Mais le financement, c'est quoi? Mais la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire le bout de papier que je viens vous présenter, ça fait 100$ ou 50$. C'est un bout de papier que vous et moi, on a confiance. Comment ça se passe? Il est imprimé par ces pays qui ont ces monnaies. Les États-Unis impriment leur monnaie. L'Union européenne, le quoi est imprimé. Les Chinois impriment leur monnaie. Mais si vous n'avez pas la capacité d'imprimer votre monnaie et d'injecter cette monnaie dans votre économie pour stimuler la croissance, mais qu'est-ce que vous attendez? Nous avons 14 pays africains en 1959 qui signent avec la France, qui disent, nous, on ne va pas imprimer de monnaie. La France garantit cette monnaie et nous demande de déposer 105% de nos avoirs à la Banque de France pour garantir cette monnaie. On a fait ça sous Houphouët Boigny. Moi, je ne le savais pas. Il aurait fallu que je puisse aller aux États-Unis, étudier les finances et l'économie, chercher à comprendre pourquoi on est dans cet état de fait, pour comprendre qu'on avait des accords qui avaient été signés en 1959, où le chef de l'État, pour avoir l'indépendance, a signé ça. Donc, les financements, nous les avons. On imprime. Quand j'injecte de l'argent dans une économie, la valeur de cette monnaie que j'injecte doit équivaloir à la valeur des biens et services que je produis. Si j'imprime plus que cette valeur, j'ai une hyperinflation. C'est ça. Ne me dites pas que nous n'avons pas la capacité de produire une économie viable à travers les financements que nous-mêmes nous allons procurer. Nous sommes assis sur 250 trillions de dollars de réserves. On peut imprimer la moitié en billets fiduciaires et introduire ça dans l'économie. Toute l'Afrique. On a les capacités de notre financement. Une richesse, elle se crée. On imagine, on cherche, on trouve. Nous avons des étudiants, nous avons des cadres aujourd'hui qui ont fait des finances, qui comprennent les finances, qui comprennent l'économie. Il n'y a pas de raison qu'on soit à ce niveau et on continue de dire qu'on n'a pas de financement. Entre-temps, la Côte d'Ivoire vient de prendre 30 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 30 milliards? Avec les 30 milliards, on aurait dû construire quelques 10 usines de 3 milliards de dollars. Mais nous avons une dette. Et quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'on a fait de cette dette, on va nous dire qu'on a tracé des routes. On a tracé des ponts. Mais le pays ne peut pas se développer avec les routes et les ponts. On a besoin de ça, certainement. Mais où sont nos usines? Vous ne pouvez pas développer une nation comme ça. C'est pas possible.
Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio de la Paix. Nous sommes à l'émission La Grande Interview. Et dans le cadre de La Grande Interview aujourd'hui, je reçois M. Lamoussa Dinko. Il est le président du Parti du Renouveau démocratique. Monsieur le Président Lamoussa, je le disais tantôt en introduction de notre entretien que vous avez animé une conférence de presse le vendredi 15 mars dernier, conférence de presse au cours de laquelle vous avez peint de façon sombre le tableau de l'éducation nationale. Quels sont, selon vous, les maux qui minent l'école ivoirienne aujourd'hui?
Un pays qui n'est pas éduqué au XXIe siècle est un pays qui ne peut pas compétir, qui ne peut pas se développer. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a des difficultés. La Côte d'Ivoire a des difficultés depuis près de 44 ans. Au début, nous avons eu un système scolaire qui était acceptable. Je suis moi-même le produit de ce système scolaire dans les années 60-70 sous Fred Boigny. Et à un certain moment, nous avons pu ouvrir des universités où les étudiants étaient logés, nourris, transportés avec des bourses. Mais depuis 1980, où nous avons eu des difficultés économiques, d'ailleurs, nous n'avons pas pu vendre notre café et cacao, le président Houphouët-Boigny a eu tous les problèmes du monde. C'est à cette période qu'on a introduit le baccalauréat probatoire. Le baccalauréat probatoire était fait pour retenir les enfants. Parce que tout simplement, le gouvernement pensait que si ces enfants ont le bac, qu'ils vont à l'université, il faut s'occuper d'eux. Il faut forcément les caser. Il faut leur trouver de l'emploi. Le ministère de l'Éducation nationale, son rôle, ce n'est pas de placer les enfants. Ce n'est pas de trouver du travail aux citoyens. Le rôle du ministère de l'Éducation nationale, c'est d'éduquer la population, un point, un trait. Vous éduquez les Ivoiriens, vous leur donnez un niveau acceptable, c'est-à-dire du primaire à l'université. Au minimum, 97% des enfants qui rentrent au CP1 doivent être universitaires. Nous n'avons pas ça, nous n'avons que 4%. 4%. J'ai demandé au ministère de la Planification, à certains amis qui sont dans l'enseignement, dans l'éducation, quel est le pourcentage des gens qui rentrent à l'université. Ils n'ont pas pu me donner ce chiffre. Je n'ai jamais entendu ici en Côte d'Ivoire, aucun gouvernement me dit quel est le chiffre exact de ceux qui rentrent à l'université. Ils sont 4%. Vous prenez 100 enfants au CP1. Les parents sont heureux de faire partir les enfants à l'école. On rêve d'ouvrir des ingénieurs, des médecins, etc., etc. 30% d'admission au CM2, en 6e. C'est-à-dire, sur les 100, il y a 70 qui sont requis. Il n'y a que 30 qui vont en 6e. Les 30, si ils ne décrochent pas, c'est-à-dire que s'ils suivent le circuit normal, qu'ils soient en 3e, alors à l'examen, soyons généreux, donnons moins 40% d'admission. Ça fait sur les 30, il y a 12 qui sont admis pendant la seconde. Ces 12 poursuivent encore leur circuit jusqu'en terminale. Soyons encore plus généreux. 40% des 12, ça fait combien? 4,5, 4, 5. Nous sommes à 4% des étudiants qui rentrent, des enfants qui rentrent au CP1, qui arrivent à l'université.
Alors, mais pourquoi cet état de fait?
Non, mais il n'avance pas parce que notre système même n'était pas fait pour pouvoir permettre à un grand nombre de personnes d'avancer depuis les indépendances. Au début, il fallait former des cadres, on en avait besoin, un tout petit peu de normes, ça suffisait. Mais ce qu'on n'a pas compris, la population de la Côte d'Ivoire est croissante. Et nous sommes actuellement à près de 600 000 habitants qui s'ajoutent à la population de la Côte d'Ivoire. On n'a même pas encore pu résoudre le problème des 30 millions, de 29 millions. Chaque année, il y a 600 000 qui s'ajoutent à ça. La croissance de la population n'est pas allée avec la croissance ou du moins le budget alloué à l'éducation pour permettre d'absorber tous ceux qui viennent soit en seconde, soit à l'université. Voilà les problèmes que nous avons eus depuis longtemps. Et aucun gouvernement n'a pu résoudre cela parce que nous avons toujours eu depuis très longtemps des déficits budgétaires. Et c'est pourquoi avec ces déficits budgétaires, il est difficile à l'État de faire face à ça. Alors voyez un peu où nous en sommes avec ce problème de l'éducation nationale. Aucun gouvernement, du président Houphouët-Boigny depuis 1984 jusqu'à nos jours, n'a pu résoudre le problème de l'éducation. Parce qu'ils n'ont pas de solution. On n'a pas de solution parce que nous avons un modèle économique qui ne nous permet pas de sortir du déficit budgétaire que nous avons de façon permanente. Alors on se retrouve dans une situation où l'État fait seulement ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et c'est là le problème. Donc, comme on nous disait, nous avons créé un système d'entonnoir. C'est-à-dire, on déverse les enfants au CP1, on attend seulement filtrer jusqu'en terminale pour prendre que 4-5%. Vous ne pouvez pas développer la Côte d'Ivoire avec ça. C'est impossible.
Comme solution, vous demandez la suppression à la fois de tous ces examens, CEP, BEPC, BAC. Comment on va évaluer la valeur de l'apprenant s'il n'y a pas d'examen en fin d'année?
D'abord, le gouvernement devait même se trouver dans une situation de ce qu'on appelle self-aware, s'auto-corriger. Si vous avez seulement 30% des enfants qui sont admis en 6e, pendant des années, près de 40 ans, moi depuis que je suis à l'école primaire, dans les années 70, ça fait près de 50 ans, vous ne vous posez pas de question pourquoi, alors vous avez un problème. Vous ne pouvez pas mettre des enfants au CP1 et avoir seulement que 30% qui puissent aller en 6e. Il y a un problème systématique. Soit c'est le système lui-même, soit c'est l'enseignant, ou soit c'est l'enseigné. Parce que si c'est l'enseigné, l'enfant n'est pas dans un cadre normal propice pour avancer. Soit il a des difficultés, il ne mange pas à sa faim, il n'arrive pas à se soigner, on ne peut pas le déplacer, ses parents sont très pauvres, le cadre à la maison n'est pas propice, il n'a pas d'électricité, chez lui à la maison peut étudier comme dans le cadre des villages. Et donc l'enfant ne peut pas évoluer dans ce cadre-là. Prenez n'importe quel enfant dans n'importe quel village, mettez cet enfant dans un cadre organisé, approprié, cet enfant ira jusqu'à l'université. Donc quelque part, l'enseignant a des difficultés pour avancer. Au niveau de l'enseignant, vous avez encore des difficultés. Nos enseignants ont des difficultés aujourd'hui. Parce que moi, quand j'allais en 6e, ou quand j'étais même au CP1, on n'était que 25 ou 30 à l'école. Ça, c'est encore dans les années 69-70. Aujourd'hui, vous avez 80 à 100 dans une classe. Vous espérez qu'un enseignant puisse enseigner dans une classe de 100 personnes. 100 élèves, individuellement qu'ils puissent connaître ces élèves, approprier de façon psychopédagogique un enseignement adéquat, mais c'est pas possible. Entre-temps, l'enseignant lui-même a des difficultés, parce qu'il a tous les problèmes du monde, il n'arrive pas à se soigner lui-même, il n'arrive pas à bien se loger, il n'arrive pas lui-même à se déplacer, parce que imaginez-vous un instant qu'on a eu de 1987 à 2007, presque 20 ans, il y a eu le blocage du salaire. Vous bloquez le salaire des enseignants. À un taux d'inflation de 5%, cet enseignant perd de 5% de la valeur de son pouvoir d'achat. Si vous n'augmentez pas son salaire pendant 10 ans, il aura perdu 50% de son pouvoir d'achat. En 20 ans, il a presque perdu tout son pouvoir d'achat. Et c'est ce que nous observons ici. Il ne faut pas que l'enseignant lui-même ait des difficultés, sinon il ne peut pas enseigner. On a ça de façon permanente. Et il faut une formation continue aussi de cet enseignant, c'est-à-dire l'enseignant doit avoir des formations pour pouvoir essayer d'améliorer lui-même. On n'a rien, on n'a pas ça. Le système éducatif ailleurs ne fonctionne pas comme ça. J'aime beaucoup prendre l'exemple des États-Unis parce que c'est là-bas que j'ai vécu beaucoup plus longtemps. Mais les enfants qui vont à l'école au CP1, ils arrivent tous en terminale. 99,9%, 99%. S'ils veulent aller à l'université, il y a 5200 universités. J'ai enseigné moi-même pendant une certaine période. Et ces enfants, ils vont à l'université, s'ils le veulent, s'ils ne veulent pas, ils arrêtent en terminale. Et il y a du boulot en terminale qui leur promet d'avoir un SMIC, qui leur permet de vivre. C'est ce que nous n'avons pas. On ne peut pas prendre 4% seulement de nos enfants à l'université, et même ceux qui rentrent à l'université après leurs études n'arrivent pas à travailler, et espérer développer la Côte d'Ivoire. On rêve, on n'y arrivera jamais.
Mais est-ce que notre enseignement, notre système éducatif aussi n'est pas fonction de la taille, du niveau de développement, entre guillemets, de notre pays, que de comparer chaque fois notre pays aux États-Unis, qui sont quand même, on va dire, la première puissance, avec beaucoup de moyens, beaucoup plus de personnes. Est-ce que cette comparaison, à vouloir prendre le modèle américain et le répliquer en Côte d'Ivoire, n'est pas, chimérique?
Elle est juste. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Dans la vie d'un homme, si vous voulez évoluer, vous vous comparez toujours à celui qui est devant vous. Si vous faites des comparaisons, quelqu'un qui est en dessous de vous, ou bien quelque part qui n'est pas arrivé, alors vous n'allez jamais y arriver. Notre objectif, c'est l'étoile. C'est y arriver. C'est pas seulement les États-Unis, c'est presque tous les pays occidentaux. Même quand vous prenez, par exemple, les pays du Moyen-Orient, si vous payez les pays latino-américains, ils sont en avance. Moi, j'ai passé partout tout le temps dans les pays, les Caraïbes. À tous les niveaux, dans tous les pays au niveau éducatif, nous sommes en arrière. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Nous n'avons pas de choix que de nous comparer à ceux qui sont y arrivés. Sinon, nous allons manquer la boussole. Nous n'allons vraiment pas pouvoir nous orienter. Je trouve que c'est normal qu'on se compare à ces pays. Parce que pourquoi? Dans les années 60, 70, il y a beaucoup de ces pays qui étaient comme nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus comme nous. Quelque part, en Chine, ils sont à 97% de leurs enfants qui finissent les études. Alors que chez nous, nous avons 47 à 50% de la moitié de nos populations qui sont analphabètes. Monsieur, depuis 1960, on a le même programme. On a échoué. On continue de croire qu'il faut aller sur la même voie. Je ne sais pas si effectivement on pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Non, nous avons un choix. C'est le choix économique. Si nous en sortons, nous allons réussir. Nous avons un PIB, par exemple, de 80 milliards de dollars. 16% de ce que recevons comme revenu. 80 milliards. Si on a une croissance de 5% présentement, une croissance de 10%, on aura 160 milliards de dollars en 7 ans. Si nous poursuivons les mêmes 10% de croissance, nous aurons 320 milliards en 14 ans. C'est-à-dire que si on a un programme réel de développement, en une génération, on peut transformer ce système.
Alors, vous dites, vous proposez 12 solutions pour réinventer l'école ivoirienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces solutions qui vont nous permettre de remettre l'école ivoirienne sur la route? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire?
Effectivement, le renouveau démocratique a réfléchi sur la question de l'éducation et on a vu qu'il n'y a pas eu de solution dans tous les gouvernements qui se sont succédés. Et nous sommes arrivés à la solution que nous avons proposée, c'est 12. C'est-à-dire que d'abord, il faut supprimer les examens en 36e, en 5e, en 3e. Le baccalauréat, il faut le supprimer. Il faut faire de telle enseigne que quand un enfant rentre à l'école, soit l'enseignant et l'enseigné sont dans les conditions normales pour leur permettre de pousser un circuit normal jusqu'en terminale. Le niveau d'éducation doit être minimum niveau terminal. Nous pouvons le faire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des examens. Vous avez dit tout à l'heure comment vous allez évaluer les enfants. On les évalue avec les examens de classe, les tests, etc. C'est comme ça, ça se passe ailleurs. Les enfants ont des difficultés, vous voulez forcément leur donner des tests. Et comme vous n'avez pas suffisamment de place pour les accueillir, alors vous les éliminez dans le temps. Et puis vous êtes très heureux et puis rien ne se passe. De deux, il faut construire des infrastructures. Des infrastructures scolaires et universitaires pour combler l'écart entre la demande et les capacités d'accueil du système éducatif. Et puis, trois, il faut mettre un accent particulier sur la qualité des ressources humaines. Quand je dis qualité des ressources humaines, les enseignants doivent pouvoir avoir une formation continue. Sinon, vous avez des difficultés. Les enseignants doivent être dans une situation économique où ils peuvent s'en sortir, où ils n'ont pas de difficultés, sinon vous n'allez pas vous en sortir. L'enseignant ne doit pas aller à l'école, en classe, à l'université, avec tous les problèmes que je venais d'énumérer. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas se déplacer, il a des problèmes. Il ne pourra pas enseigner. 3. Il faut renforcer, 4, la capacité du matériel didactique. Moi, quand j'étais ici, jusqu'en terminale, je n'avais jamais vu horoscope. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'en ont jamais vu. Nos laboratoires n'ont presque rien. Mais vous voulez que les enfants étudient comment ? Et être compétitif à quel niveau ? Dans les laboratoires, c'est vide. Les enfants n'ont jamais rien vu comme objet chimique, etc., dans les laboratoires. Presque, c'est-à-dire, on vous dit de façon verticale, en écrit, que tout va bien. Et nous avons des situations où les enfants qui n'ont pas ce matériel, qui n'ont jamais touché à ce matériel, mais il est difficile d'enseigner à ces enfants. Donc, le matériel didactique doit être très, très, très important. Alors, il faut ça, il faut changer le système d'études universitaires à unités de valeur, comme je l'ai dit. J'avais enseigné aux États-Unis, à un moment de cela, un étudiant qui était en deuxième année. Cet enfant était tout le temps en retard. Moi, je me demandais pourquoi il était en retard. Où il venait en retard, on devait arrêter pour qu'il s'asseye et ça dérangeait. Et dans la discussion, il m'a fait comprendre qu'il était fermier, qu'il avait hérité de la ferme de son père. Il avait 19-20 ans. Il m'a dit, M. Dianco, je suis fermier. Moi, j'étais quand même assez étonné. Voilà un fermier de 19-20 ans qui veut toujours aller à l'école. Et pourtant, un fermier aux États-Unis, hein, il n'est pas pauvre. Alors, on a un système qui lui permet de faire ça. C'est-à-dire, en été, où il travaille dans sa ferme, il ne peut que prendre des cours de 3 heures ou 6 heures. En hiver, où presque tout est fermé, il peut prendre 12 heures. C'est-à-dire, il a 120 heures pour avoir sa licence. Il peut faire ses 120 heures en 10 ans, en 4 ans, en 3 ans.
Ah, ça dépend du système des UV, des unités de
voilà, c'est ça, c'est ça. C'est
mais ce que nous avons ça aujourd'hui.
Non, 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 c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous avez, non, c'est pas la même chose. Vous avez un système aujourd'hui, quand je commence les études en septembre, je dois être là jusqu'en juin pour terminer l'année. Pour valider, sinon je ne suis plus là, je redouble, je reprends. C'est pas la même chose. Vous voyez, on a changé notre système, on dit c'est LMD, LMD. Bon, on change tout, et réellement le système ne correspond pas à ce que nous faisons. Non, c'est pas la même chose. Ici, est-ce que vous avez 120, vous pouvez faire votre licence en 10 ans sans problème? Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous pouvez faire votre doctorat, vous avez le temps de faire, aller travailler, revenir? Vous ne pouvez pas le faire. Est-ce qu'un étudiant qui n'est pas boursier peut avoir un emploi dans votre radio ici, et puis le soir aller prendre les cours de 3 heures ou de 4 heures seulement? Vous n'avez pas ce système qui fonctionne comme ça. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas faire la même comparaison. Il faut augmenter le salaire des enseignants. Je vous avais dit, si le salaire des enseignants diminue, le pouvoir d'achat diminue, ils ont des problèmes. Moi, ce que je propose au niveau démocratique, c'est qu'il y ait une augmentation du salaire automatique. C'est-à-dire que s'il y a un taux d'inflation de 5%, automatiquement, les enseignants ont leur salaire augmenté de 5%. En réalité, même, je souhaiterais même que ce soit tout le monde en Côte d'Ivoire qui ait ça, pour ne pas perdre le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si c'est 5% de taux d'intérêt, tout le monde a 5% d'augmentation de salaire. Ça permet de ne pas perdre votre pouvoir d'achat, de vivre normalement comme vous vivez. Il faut accompagner. On appelle ça ajustement du coût de la vie. Il faut l'accompagner. Sinon, on aura tous les problèmes du monde. Et d'abord, 7. Il faut construire des campus universitaires. Les étudiants étaient transportés à Bobo, Port-Boué, le Pougon, des bus, des campus, des restos. C'est où ça ? Ça a disparu. Alors qu'en réalité, nous devrons vivre pour rendre la vie de nos enfants mieux que nous. C'est ça la vie d'une personne, d'une société. On se bat pour nos enfants. Mais vous et moi, on a vécu mieux en tant qu'étudiants que ceux qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est renversé. On va de mal en pire. C'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal en ça. Si nous faisons rien, c'est-à-dire qu'on est habitué à ça. Mais quelque part, le gouvernement est incapable de trouver des solutions et que ce problème dure depuis très longtemps, depuis 44. Il faut réhabiliter, 8, le patrimoine mobilier et immobilier de l'école. Les enfants sont dans des conditions difficiles. Je suis allé à l'intérieur du pays. Il y a des salles de classe qui sont purement et simplement sans banc, sans table banc. Une fois que le vent vient, le toit est parti, les enfants sont assis là quand il pleut. Bon, on n'a même pas besoin d'aller à l'intérieur du pays. À Tegoubéichon, nous avons fait un reportage. Vous voyez les enseignants, comment ils sont dans les conditions. Il y a un problème avec ça. Il faut réhabiliter, en plus construire. 9, créer des écoles maternelles. Vous savez, l'école maternelle, on n'a que 3% de nos enfants qui sont à l'école maternelle. Parce que l'école maternelle donne la capacité à l'enfant d'être dans un cadre d'apprentissage et le goût à l'école qui lui permet d'aller au CP1. Il faudrait multiplier ça. 10, il faut lutter contre la fraude, la corruption. On a des examens d'entrée à l'ENA, des examens par-ci, par-là. Vous faites un circuit scolaire université, après, vous ne pouvez pas travailler. On dit non, il y a un examen ici qu'il faut le passer. Quand vous passez ces examens, c'est pour peut-être 10 000 personnes qui passent l'examen pour peut-être 400 ou 300 places. Ça attire la corruption. La preuve, vous savez, moi je ne vous dis pas, tout le monde le sait, mais c'est ce que j'ai entendu. À l'entrée à l'ENA, souvent on débourse 3 millions, 4 millions, certains ont des quotas ici, etc. C'est pour cela qu'il faut éliminer tout ça. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir un circuit normal. Si vous êtes intéressé à l'administration, il doit avoir un circuit normal pour vous permettre directement d'aller. Je suis en 11e, l'État doit prendre en charge la spécialisation des étudiants, parce que les étudiants en médecine, l'État ne prend pas ça en charge. Les étudiants eux-mêmes déboursent 8 millions en 4 ans pour se prendre en charge pour la spécialisation. Et quand ils sont spécialisés, on ne les paye même pas comme étant spécialisés. J'ai fait l'étude de faisabilité en domaine de la santé pour l'AMU à l'époque. Et je vous dis que nous n'avons pas de médecins, nous n'avons pas de spécialistes. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de spécialistes et que l'État ne prenne pas en charge. Et 12, il faudrait un statut spécial pour les journalistes. Ce que les gens ne comprennent pas dans une société, les journalistes, vous êtes des éducateurs. Vous enseignez, vous informez, vous faites des recherches. Il y en a pour la première fois qui ont pris des informations parce qu'ils ont ouvert des pages où vous avez écrit. Et moi, avec mon parti politique, nous, au Renouveau démocratique, on veut lutter contre la corruption, on veut lutter contre les gabegies de l'État, on veut essayer d'avoir un État purement démocratique. On a besoin des journalistes qui doivent pouvoir travailler, se déplacer, vivre normalement, être soignés. C'est pour cela que ce parti politique, si Dieu lui fait grâce, les journalistes auront un statut spécial. Je l'ai toujours dit et répété dans presque toutes nos conférences de presse.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'État qui va gérer, créer les entreprises de presse, financer ?
Non. À partir du moment où vous créez, comme nous avons vu ici à la RTI, etc., ça devient un peu étatique. Bon, ceux qui sont là nommés par l'État pensent qu'ils doivent travailler pour l'État. Il faut éviter ça. Les journalistes sont dans le centre, dans les journaux, comme vous à la radio ici, indépendants, librement. Mais l'État doit donner des subventions à ces entreprises pour leur permettre de pouvoir rémunérer mieux les journalistes, pour leur permettre de faire mieux leur travail.
L'argent, la main qui donne, c'est pas la main qui commande.
Négatif.
Ces subventions-là ne risquent pas de permettre à l'État de donner des directives à ces médias si
négatif.
On veut des médias indépendants et libres.
Négatif. Parce que c'est ce qui se passe avec la RTI. Vous avez la RTI qui est là. Nous invitons la RTI tout le temps. Souvent, c'est difficile d'y accéder. Je ne vous dis pas le secret, c'est là. Ils font leur travail, mais je crois que les décisions sont différemment prises plus haut au niveau de l'État. Non. Justement, notre objectif, c'est de permettre cette indépendance pour que ces journalistes nous critiquent, pour que ces journalistes fassent des recherches pour nous dire « Il y a fraude dans votre département, voilà les recherches que nous avons trouvées », pour qu'on puisse prendre des décisions, pour que ces journalistes puissent informer la population qui ne sait pas. C'est pour cela que nous souhaitons que ces journalistes soient pris en charge spécialement, sans autre considération, sans leur dire ce qu'il faut faire. Ils sont libres, à travers leurs journaux, d'opérer comme ils veulent. Seulement, nous allons leur permettre d'avoir les moyens de le faire. C'est tout.
Amis auditeurs, vous suivez Radio de la Paix. Nous sommes à l'émission La Grande Interview. Et dans le cadre de cette émission, nous avons pour invité M. Lamoussa Dinko. Il est économiste et président du Parti du Renouveau démocratique. Lors de votre point de presse, vous avez dit qu'il fallait arrêter l'opération de déguerpissement des quartiers précaires et vous avez préconisé la construction de logements sociaux pour permettre aux populations les moins nanties de pouvoir être logées décemment. Alors, ma question, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de salubrité dans la ville ?
Mon problème, je suis issu d'une famille modeste, très très modeste. Ma mère était commerçante, elle vendait de l'huile, paix à son âme, au marché de Djamé. Mon père était ouvrier à Irulamé. Toute ma vie, mes parents étaient là pour moi, avec les maigres moyens qu'ils avaient. Au Renouveau démocratique, ce parti politique va se battre contre la pauvreté. Ça, c'est notre objectif. Éliminer la pauvreté par tous les moyens. Vous cassez les maisons. Vous savez très bien que l'Abidjan est une ville très chère, fait partie des villes les plus chères au monde, je dirais. Vous avez 115 000 francs de SMIC. On ne peut pas vivre à Abidjan avec ce SMIC. Où est-ce que vous espérez que les gens parlent ? Moi, quand j'étais en 6e dans les années 70, j'étais au quartier Saint-Michel à Djamé. C'était une cour commune. Mais 50 ans plus tard, cette cour est toujours là. Quand vous allez à Trècheville, Koumassi, Marcory, Djamé, Babobo, etc., ce ne sont que des cours communes dans toute la capitale. Ce pays a des difficultés quand il s'agit de loger les habitants. Alors, on se lève un matin dans un bureau, on décide de dire, bon voilà, on va assainir la ville, on va octroyer des espaces à des entreprises qui viendront travailler, qui viendront tout faire. Et donc, monsieur, on vous donne déjà de quitter le coin, bon, nous allons essayer d'assainir la ville. Mais où est-ce que vous voulez qu'ils partent ? Ils n'ont nulle part à y aller. Vous leur donnez, je vois, vos communiqués relatifs à l'opération spéciale de déguerpissement du ministère. Ils ont donné 5 mesures majeures, dispositifs au relogement. On veut donner 250 000 francs par ménage, c'est d'acquitter. Vous pensez qu'on peut vivre avec 250 000 francs ou à se loger avec ça à Abidjan ici ? Trois, on veut leur donner 115 mètres carrés. Et à Abidjan ici, à 115 mètres carrés, vous voulez faire quoi avec ça ? C'est pas exactement créer la même baraque. Pas plus que ça. On veut leur allouer une allocation d'une aide de construction d'1 million de francs CFA. Vous savez très bien combien coûtent les terrains à Abidjan. Ici même, à Cocody, dans cette zone, vous pouvez payer un terrain de 500 mètres carrés, 400 mètres carrés, 100 millions de francs CFA. Où est-ce que vous voulez que ces personnes partent avec ces aides ? Tout simplement que le gouvernement se dise une chose. Mettons frein, purement et simplement, à ce programme. Construisez d'abord les logements sociaux. Quand vous allez construire ces logements sociaux dans presque tous les quartiers d'Abidjan, alors vous avez la capacité de détruire ce que vous appelez ces baraques, ce que vous appelez ces quartiers non désirables.
Le gouvernement dit, mais quand il pleut, les gens sont là-bas, dans leur logement, et ils décèdent, ils meurent.
Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Est-ce que vous avez vu la liste des coins qui vont déguerpir? Vous croyez que c'est tous les coins où c'est quand il pleut, les gens meurent? Non.
Est-ce que l'État aussi, s'il est propriétaire de son terrain, qu'il a besoin de son terrain, si c'est sur son terrain, est-ce que l'État n'a pas le droit de prendre possession de son terrain?
C'est pour cela qu'ailleurs, dans les pays développés, dans les pays moyennement développés, moyen terme, je ne sais pas moi, ils ont un programme pour les gens qui sont de façon chose. En France, aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas construire une ville aujourd'hui sans penser aux économiquement faibles. Et il y a une assistance quand même à partir de l'État pour assister les gens qui ne peuvent pas se loger, pour pouvoir avoir des subventions pour être logés normalement. On n'a pas ce programme. Ne nous faisons pas d'illusions. Être pauvre en Côte d'Ivoire, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est-à-dire, moi, je demande toujours aux membres du gouvernement. C'est-à-dire, moi, dans ma vie, ce que je fais, je me mets toujours à la place de ce monsieur. Parce que Dieu m'a fait une grâce aujourd'hui, je suis confortable, je vis très bien. Mais est-ce que si j'étais ce monsieur, que subitement venait casser ma maison parce que je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les moyens, comment est-ce que je vais me ressentir? Pensons à assainir la ville de façon sensible. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des logements sociaux, c'est possible, on peut le faire.
Monsieur Lamoussa Dinko, je rappelle que vous êtes le président du parti Le Renouveau Démocratique et que vous étiez notre invité dans le cadre de cette émission, la grande interview. Mais avant de partir, on va vous laisser et dire votre mot de fin, parce que le temps qui nous est imparti, malheureusement, est arrivé à terme. Alors, quels sont vos mots que vous pouvez dire concernant l'école et sur les activités sociales dans le pays?
Je voudrais vous dire merci de nous avoir invités sur votre plateau. Je voudrais aussi m'adresser à la population ivoirienne, la population majoritairement pauvre, qui a des difficultés, de ne pas désespérer. Et dans la vie d'une nation, il y a des gouvernements qui viennent et qui partent. Si le gouvernement qui est en place ne vous sied pas, cherchez ailleurs. Revoyez le programme de gouvernement de chaque parti politique avant de suivre un parti politique. Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre que 64 ans plus tard, nous sommes encore à ce stade où nous allons, notre situation va de mal en pire. L'économie va mal, l'école est malade, on n'arrive pas à se soigner, l'agriculture, on ne dépend que de ça, on a tous les problèmes du monde à tous les niveaux. Et jusqu'à présent, je ne peux pas vous prendre un exemple où je vais vous dire que ce secteur, tout va bien. Alors nous, au niveau démocratique, on dit tout simplement à la jeunesse de ne pas désespérer. Notre programme de gouvernement est fait justement pour les aider. Notre programme de gouvernement est fait pour venir, si Dieu nous permet, s'il y a une grâce de Dieu qui nous permet de venir au pouvoir, d'apporter ces changements au moins. Et je pense même que le problème ivoirien, même ce n'est pas un problème de RHDP, ni de PPAC ou de Renouveau Démocratique, ni du PDCI. C'est un problème national, nous avons un problème sérieux. Il faudrait qu'ensemble, on cherche à trouver des voies et moyens pour résoudre le problème de la Côte d'Ivoire parce que tout va mal. Et il y a des progrès, certes, mais on pouvait mieux faire. Moi, je me compare toujours à l'étoile. Il faut aller de l'avant. Si nous allons de l'avant, si nous entendons, s'il y a la paix, si on se comprend, si le système démocratique est clair et net, si celui qui est élu parce que c'est ce que le peuple veut, je vous garantis que ce pays peut changer. On a les moyens, on a les hommes.
Merci beaucoup, Monsieur le Président Lamoussa Dinko, président donc du Renouveau démocratique, qui était notre invité dans le cadre de la grande interview avec lui. Nous avons parlé de l'éducation nationale, nous avons parlé de la situation de l'école. Monsieur Lamoussa Dinko dit que l'école va mal et a proposé 12 solutions pour relever ce défi de l'école. Également au plan social, il a préconisé la construction de logements sociaux et que les opérations de déguerpissement se font à visage humain pour permettre aux populations les plus démunies de pouvoir avoir aussi leur place dans la vie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on vous donne un rendez-vous sur nos antennes pour d'autres émissions, pour d'autres défis. D'ici là, rentrez bien chez vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Je vous remercie.
Ben Diakité.
Vous venez de suivre la grande interview. We'll be right back.